Voilà, je suis persuadé que déjà les paroles de tous ces merveilleux chants ont suscité dans le cœur de tous une flamme, une étincelle, quelque chose de prometteur, parce qu'il y a les plus belles promesses qui nous sont proposées par ce Dieu qui nous aime et qui nous aime d'un amour aussi grand et plaise à Dieu qu'en repartant de ce lieu tout à l'heure, vous puissiez vous aussi dire « Mais c'est formidable, mes chaînes ont été enlevées ». Il a été question dans quelques-uns de ces chants de montagnes que Dieu a le pouvoir de déplacer. Alléluia ! Que ces choses ne soient pas que des images belles, mais l'expérience miraculeuse de beaucoup d'entre nous. Cher ami, véritablement, le Dieu qui nous honore de sa présence a ce pouvoir de transformer ta vie. Et pour cette dernière rencontre de la série, je rappelle que le fil conducteur qui nous a orienté dans nos échanges, c'est le temps de Dieu pour ta vie. J'ai réservé pour cette dernière réunion un aspect très particulier de ce passage que nous avons lu et relu dans le chapitre 40 du livre d'Ésaïe. Si vous le voulez bien, ce qu'on va faire, on va faire trois lectures et on va commencer non pas par ce texte d'Ésaïe, mais par quelques versets de l'évangile de Luc. Et au chapitre 4, on va lire ensemble à partir du verset 16. Un événement, un épisode du ministère de Jésus, l'évangile de Luc, au chapitre 4 et le verset 16, un texte absolument merveilleux où il nous est dit « Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, c'est le temps de Dieu, hein, le temps marqué aujourd'hui. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même et vous me direz « Fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais, ajouta-t-il, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. » Amen. Eh bien, cette femme, cette veuve de Sarepta, on va la découvrir dans le second texte que je vous propose, il se situe dans le premier livre des Rois, au chapitre 17. On va découvrir son histoire. Un roi 17, le verset 8. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Et là, et il fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. » Et on termine avec nos lectures en lisant donc le chapitre 40 d'Ésaïe. Dès le verset 1, Ésaïe 40, verset 1, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'il a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaines et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair verra que la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. » Au milieu de tous les temps difficiles que nous pouvons connaître les uns les autres dans notre existence, il y a le temps de Dieu. Amen. Au milieu de nos soucis, de notre agitation, de nos projets qui échouent, de tout ce qui s'accumule en négatif dans notre cœur, parce que plus on avance et plus on augmente ce passif de souffrance, de frustration, au milieu de tout cela, une bonne nouvelle, c'est que Dieu a un temps marqué pour nous révéler son amour, sa grâce, son grand salut et sa personne à qui rien n'est impossible. Une bonne nouvelle, consolée et annoncée qu'un temps va venir où la servitude est finie, où la frustration prend fin, où l'iniquité est expiée, un temps merveilleux. Et nous avons dit, ce temps a été confirmé, il s'est produit par la venue du Sauveur. Amen. Au temps marqué, Christ est mort pour des pécheurs, des impies, nous, toi, moi et chaque être humain sur la terre. Le temps marqué de Dieu est venu, et avec la venue de Jésus, c'est l'événement le plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité. Le ciel s'est ouvert, un moyen immédiat, gratuit et sans condition est proposé par Dieu pour le salut et pour vivre la bénédiction du Seigneur. Et je disais que pour que cette promesse merveilleuse devienne réelle pour nous, bien il faut que le Seigneur vienne. Il faut préparer un chemin. Parce que notre cœur ressemble malheureusement à un paysage tourmenté, le péché a mis du désordre, nous a induit dans des chemins et des comportements et des expériences traumatisantes. La photographie de notre vie, si nous pouvions projeter sur l'écran notre vécu, le secret de notre intérieur ressemble à un terrain chaotique, tourmenté, ça ressemble à rien, c'est le chaos. Alors Dieu va s'employer à travailler, et nous avons vu que ce qui est trop haut, il l'abaisse, ce qui est trop bas, il l'élève, et il met à la bonne altimétrie. Nous avons vu qu'il redresse ce qui est tordu. Nous avons vu qu'il aplanit les chemins raboteux, pierreux, où il y a des blocs solides qui se sont installés. Et je disais que les blocs, ça bloque. Et nous sommes parfois et souvent victimes de nos propres blocages, n'est-ce pas ? Alors le Seigneur travaille à enlever ces pierres parce qu'il veut nous conduire plus loin. Et aujourd'hui, je terminerai avec cet aspect de l'œuvre de Dieu en nous. Tout ce qui est étroit, Dieu va l'élargir. Amen. Il va élargir ce qui est étroit. En observant l'être humain, son comportement, en côtoyant les gens, en les visitant, en les écoutant, on s'aperçoit que le cœur de l'homme se trouve dans une condition d'enfermement, de crispation et de repli sur soi-même. Les gens sont méfiants. Ils sont sur la défensive. Les gens, on l'a chanté à plusieurs reprises, sont habités de peur, de phobie même. Une personne de Firminy dans la Loire me disait « Je ne peux même pas sortir faire les courses avec mon mari parce que je souffre de phobie, je ne peux pas supporter la foule. » Et de sortir, ne serait-ce que sur le palier de notre appartement, commence à susciter en moi des mal-êtres qui s'intensifient. Si je sors de l'immeuble, c'est insoutenable. Et pendant des années, cette personne est restée comme cela, dans un quotidien étroit, victime de cet état de phobie et stress. Le scepticisme, la rancune et tout un triste catalogue d'états intérieurs négatifs rendent l'être humain comme des prisonniers, comme des prisonniers. Et parce que Dieu nous aime, il veut par son évangile merveilleux s'employer à élargir les lieux étroits. Un des chrétiens du premier siècle à qui l'apôtre Paul envoyait ses salutations portait un nom formidable. Il s'appelait Amplias. Son nom, simplement son nom, était un témoignage. Celui qui a été élargi. Celui qui a été augmenté. Amplias, quel est ton témoignage ? Oh, mon témoignage, c'est que j'étais à l'étroit dans mon cœur. Ma vie était enserrée dans des limites misérables. Mais j'ai entendu l'évangile de Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus m'a mis au large. Je m'appelle Amplias. Bien puissions-nous porter tous ce nom en partant de ce lieu et que nous puissions témoigner, oh, combien Dieu est bon. Il a usé à mon égard d'une telle miséricorde. Il m'a mis au large. Il a élargi les sphères étroites de ma vie intime, secrète et cachée. Lorsque Jésus est arrivé dans sa ville de Nazareth, et lorsqu'il va lire ce texte merveilleux qui concerne les œuvres du Messie, renvoyer libres les opprimés, guérir les cœurs brisés, que les aveugles recouvrent la vue, etc. C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? Il a lu ces paroles sublimes aux villageois de son enfance, n'est-ce pas ? Les gens l'ont écouté. Oh, non, qu'est-ce qu'il parle bien, alors ? Le plus vieux se tourne vers son compère, mais c'est pas le fils de Joseph. Ah oui, je ne l'avais pas reconnu, c'est lui. Mais d'où lui viennent ces choses ? Et à l'écho de ces paroles merveilleuses, ces villageois ont répondu par une attitude d'incrédulité. D'incrédulité. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus est cette lumière qui est venue briller chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu, n'est-ce pas ? Il y a eu à l'égard du Sauveur, de la part de toute cette génération incrédule, une attitude étroite, fermée. Je me souviens, alors que nous étions dans une équipe d'évangélisation, moi j'avais 19-20 ans, dans les huppes de l'agglomération lyonnaise, le samedi, nous rendions témoignage, et je me souviens d'avoir frappé à une porte, et la porte s'est entrouverte, il y avait deux chaînes, il y avait une barre, et simplement le nez velu d'une grand-mère est sorti dans les 10 centimètres là. Et je me suis dit, oh, la pauvre mamie, elle est vraiment méfiante, hein. J'ai l'impression qu'à l'écho de l'Évangile, l'attitude de l'être humain, malheureusement, trop souvent, est une attitude étroite, calculatrice, raisonneuse, et que l'être humain, qui pourtant est interpellé par un Sauveur merveilleux qui veut son salut, qui veut son bonheur, qui veut la guérison, qui veut la bénédiction, eh bien l'être humain est victime de sa propre étroitesse suscitée par son incrédulité. Et finalement, l'exemple que Jésus suscite est là pour nous encourager. Lorsqu'il répond à tous ces villageois, mais écoutez, rappelez-vous du temps du prophète Élie. Alors qu'il y avait cette famine sévère, ces 3 ans et demi de sécheresse, il y avait des veuves en Israël, mais ce n'est vers aucune d'entre elles que le prophète a été envoyé. Dieu l'a envoyé vers une veuve dans un village nommé Sarepta, qui appartient à Sidon. Et Jésus va finalement nous donner cette veuve de Sarepta comme exemple. Et je voudrais simplement, dans la seconde partie de mon message, que nous puissions regarder de plus près l'exemple de cette femme. Dieu dit à Élie, va trouver à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il arrive et il trouve effectivement cette villageoise et très rapidement, Élie comprend dans quelle situation se trouve cette femme. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle était dans une situation d'une terrible étroitesse. Terrible étroitesse. Lorsqu'il va lui demander un petit morceau de pain, écoutons et regardons ce que la femme répond. Écoute, j'ai rien. Je n'ai rien à la maison. Je n'ai rien de cuit. J'ai un petit peu de farine dans le pot, un fond d'huile dans la cruche. Et puis, tu sais, je vais te dire le programme qui est le mien. Je suis en train de ramasser 2 brindilles de bois, pas 3, 2. Eh bien, avec ça, je vais faire cuire ce peu de farine. Et avec mon fils, nous mangerons, puis nous mourrons. Mais c'est étroit tout ça. Hein. Ce n'est pas enthousiasmant. Hein. Voilà la condition dans laquelle se trouvait cette femme. Mais à réfléchir sur cette scène, on comprend des choses essentielles. Moi, je comprends une première chose, c'est que le discours de la femme se fait à la première personne, soit du singulier, soit du pluriel. Je, et mon fils et moi, nous en mangerons et nous mourrons. Et je me dis, où est Dieu là-dedans? Où est Dieu? Acceptez que je vous pose cette question. Y a-t-il de la place pour Dieu dans votre vie? Où est Dieu dans les projets qui sont en gestation dans le cerveau de chacun? Où est Dieu dans notre société? Où est Dieu dans toutes ces entreprises que les humains essayent de gérer ça grouille, ça, c'est incroyable. La société est en effervescence perpétuelle, mais où est Dieu ? Où est Dieu ? Si le prophète avait posé la question à la femme, elle aurait immédiatement été confuse en prenant conscience que dans sa détresse, elle n'avait laissé aucun espace au miraculeux divin. Et je t'en prie, fais de l'espace pour Dieu. Commence à penser différemment. Commence à concevoir que tout n'est pas une fatalité sans remède, mais qu'il peut se passer quelque chose. Amen. Commencez, mes amis, au fond de votre cœur, à concevoir l'inconcevable. Ma Bible me dit, ce qui est impossible aux hommes, ça c'est les limites humaines, est possible à Dieu. Qui le croit ? Deux. Donc, ah, plus, ici, plus. J'espère tous. Ce qui est impossible aux hommes, c'est l'étroitesse humaine, est possible à Dieu. Oh, ça me met au large. Gloire à Dieu. Et quelque chose a commencé à se manifester chez cette femme lorsque l'homme de Dieu lui a fait réponse. On ne crains point, fais comme tu l'as dit, mais prépare-moi d'abord avec cela un gâteau. Il est encourageant, hein, le prophète. Je ne sais pas si on peut appeler un gâteau un peu de farine, un peu d'huile. Bon, lui, il encourage la cuisinière. Prépare-moi un gâteau, mais tu me l'apporteras, moi, d'abord. Et tu en feras ensuite pour ton fils et pour toi, car, écoute bien, ainsi parle l'Éternel, la farine ne manquera pas dans le pot, ni l'huile dans la cruche, aussi longtemps que le dira la parole de l'Éternel. Gloire à Dieu. Et voyez-vous, ce qui a été formidable, mes amis, c'est que chez cette femme, le fait que le prophète ait signé son discours du nom de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ça a suscité la foi. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, osez la foi. Amen. Osez de croire. Osez mettre le Seigneur de la promesse au pied du mur. Osez la foi. Pensez différemment. Écartez le fatalisme. Ouvrez-vous à l'espérance. Commencez à entrevoir une issue inespérée à votre situation, à comprendre que là où vous souffrez d'étroitesse, Dieu peut vous mettre au large. Alléluia. Qu'au nom du Seigneur Jésus, vos souffrances morales peuvent disparaître, votre pessimisme chronique, votre inclination à voir les choses en sombre, tout cela, le Seigneur peut le transformer, le changer, mettre au large votre âme en vous révélant sa personne et les œuvres que sa main puissante est capable d'accomplir. Amen. Et je le crois cet après-midi. Sur votre chaise, maintenant, vous pouvez faire l'expérience de cette œuvre de mise au large que Dieu va opérer dans votre vie, dans votre âme, dans votre cœur. Oui. Écoute sa voix. On l'a chanté. Il dit que ta foi déplacera quelques-unes de tes montagnes. Amen. Oui ou non? Non, non. Toutes tes montagnes. Écoute sa voix. Il dit, pas un homme, le Dieu de vérité dit que ta foi déplacera toutes tes montagnes. Donne un nom à chaque montagne, comme sur un endroit d'observatoire, quand on est allé voir le pic, le mont. Donne un nom à tes montagnes et dis-leur à chacune d'entre elles qu'au nom du Seigneur Jésus, elles sont maintenant déplacées afin que vous jouissiez enfin du vrai bonheur en Jésus-Christ, d'une paix indicible, d'une joie intarissable. Ce sont les conséquences merveilleuses de l'œuvre de Dieu dans la vie de l'être humain. Amen. Gloire à Dieu. C'est il y a 46 ans maintenant, et je vais terminer avec ce témoignage, que la lumière de l'Évangile est entrée à la maison. Amen. J'avais donc 16 ans, ce qui vous permet par une simple addition de connaître mon âge. Et nous étions à l'étroit. Notre vie familiale était difficile à vivre. L'atmosphère était pesante. Maman et papa parlaient de divorce. Maman était gravement atteinte, non seulement au plan physique, mais au plan moral, psychologique, dans la dépression nerveuse sur une période de 18 ans. Ayant consulté divers médecins et parmi eux quelques sommités, et son état s'empirait. Nous sommes d'origine arménienne et dans la culture arménienne, il y a beaucoup de superstitions et maman faisait venir à la maison diverses personnes louches, troubles, qui faisaient des incantations et son état s'empirait. Jusqu'à ce qu'un jour, une petite grand-mère, parlant très mal le français, mais connaissant le Dieu des miracles, est venue à la maison. Et elle a dit à ma mère, « Je connais celui qui a le pouvoir de te sortir d'affaires, de te mettre au large, de déplacer tes montagnes. » Il faut savoir que parfois, maman s'enfermait dans sa chambre. Pendant un jour, deux jours, trois jours, elle n'en sortait pas. Et nous savions, mes deux sœurs et moi-même, que dans ces moments particuliers, il fallait être très prudent avec elle. Nous avions assisté à quelques scènes chocs. Mais à travers d'une simple grand-mère, le Dieu sauveur était en train de se faire connaître à la famille. La bonne idée que maman a eue ce jour-là, ce fut de suivre la grand-mère le dimanche matin au culte à Lyon, où elle a entendu le message de l'amour de Dieu. C'était le pasteur Daniel Quintin, à l'époque, qui était en charge de l'Assemblée de Lyon. J'avais 16 ans. Et vers 13 heures, maman est rentrée à la maison, mais ce n'était plus vraiment maman, c'était une nouvelle maman, méconnaissable. Je n'avais jamais vu un tel rayonnement sur son visage, jamais. Et quand elle a commencé à nous faire le compte-rendu du culte auquel elle avait assisté et de sa découverte de ce Dieu merveilleux, je vous assure que ça nous a bouleversés, bouleversés. Elle nous a dit son bonheur de se savoir aimé de Dieu. Elle qui était gangrénée de remords, de toutes ses erreurs du passé, en un dimanche matin, le Seigneur lui a révélé qu'elle avait de la valeur à ses yeux. Elle nous en parlait de tout son cœur. Et on a attendu les suites, et elles furent tellement probantes qu'au bout de 4 mois de ce changement miraculeux, un samedi soir, je lui ai dit « Maman, par curiosité et une fois, je vais te suivre. Demain matin, je viens avec toi. Je veux savoir qui t'a changé comme ça. Je veux connaître la raison de cette transformation. » Et je suis allé, c'était au début du mois d'août 1971, et lorsque je suis arrivé dans ce lieu, et dès les premiers cantiques, et en particulier pendant la louange, à travers un don spirituel où Dieu dévoilait mes luttes et mes souffrances cachées, je découvrais à mon tour le Seigneur. En sortant du culte, les yeux en larmes, je disais à ma mère, « Dimanche prochain, on revient !» Amen. Et de dimanche en dimanche, et puis finalement, rapidement, on s'est dit, mais non, dimanche matin, ce n'est pas suffisant. On va prendre le casse-croûte, on va manger sur place, et on restera pour l'après-midi. On habitait assez loin, n'est-ce pas? Et on assistait toute la journée. Et on s'est dit, à un moment donné, mais d'un dimanche à l'autre, ça fait une semaine, c'est long. On va revenir le mardi, on va revenir le vendredi soir à la prière. Et moi, le lundi soir, j'étais avec les jeunes. On a expérimenté ce pouvoir miraculeux que Dieu possède de mettre au large. De mettre au large. S'il y a quelques jeunes, quelques ados parmi nous, l'ado que j'étais, mon programme de week-end, c'était très simple. À partir de samedi midi jusqu'à dimanche 23h, c'était télévision. C'était une vie étroite, avec une âme vide et solitaire. Mais Dieu a mis au large. Dieu a béni mon père, Dieu a béni mes deux sœurs. Dieu a béni la famille. Les menaces de divorce ont disparu pour laisser place au bonheur du ciel. Alléluia. De même que l'on tire les volets, laissant le soleil envahir une pièce, Jésus nous a remplis de la lumière du ciel. Il peut en être de même pour toi cet après-midi. Dieu veut venir. Et en venant, il veut élargir en toi ce qui est étroit. Il veut remplir ton être, envahir ton âme de sa présence, de son pardon, de son amour, d'une joie et d'une vie éternelle, que Dieu soit béni. Il ne manquera pas de guérir tes plaies. Il a le pouvoir, on l'a chanté, de briser tes chaînes, de faire disparaître toute trace de péché et de culpabilité. Ce grand Dieu d'amour nous a envoyé un merveilleux Sauveur en la personne de Jésus-Christ, et ce Sauveur mort pour nous est ressuscité, présent parmi nous maintenant. Et il se tient à la porte du cœur de chacun. On va prier le Seigneur, si vous le voulez bien, et on va disposer nos cœurs. Et peut-être quelqu'un sur sa chaise va faire monter une prière secrète à ce Dieu merveilleux. « Oh Dieu, tu connais mon âme en souffrance. Tu connais mon sentiment d'oppression. Tu sais ce que je suis, tu sais ce que je vis. Puisque tu mets au large, fais-le pour moi s'il te plaît. » Alléluia. Prions ensemble. Gloire à Dieu. Seigneur, tu es vraiment merveilleux. Ce qui nous est inconcevable et impossible, toi, tu l'accomplis. Tu n'as pas de limite, Seigneur. Un mot de ta bouche et la chose arrive. C'est pourquoi je te prie pour tout cet auditoire et pour chaque élément qui le compose. Je te prie pour que l'action de ta parole et l'action de ton Saint-Esprit amène chacun à expérimenter cet amour miraculeux de Dieu. Oh Seigneur, que ta bénédiction descende maintenant et qu'il soit déversé dans le cœur, dans la vie de chacun. Que les malades soient guéris, Seigneur. Que les âmes accablées de fardeaux connaissent une véritable délivrance des fardeaux. Que la joie du ciel inonde les cœurs. Que plusieurs repartent de ce lieu, Seigneur, avec la résolution joyeuse de s'attacher à ta personne et à ta bonne parole, au nom de Jésus. Amen.